Les Bouddhas et Dhammas, les Sanghas et jusqu'à l'éveil, prends refuge par les bienfaits des dons et vertus que je m'éveille. Tous les vivants, les Bouddhas et Dhammas, les Sanghas et jusqu'à l'éveil, prends refuge par les bienfaits des dons et vertus que je m'éveille. Pour tous les vivants, les Bouddhas, Dharma, les Sanghas, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge par les bienfaits des dons et vertus que je m'éveille. Pour tous les vivants, veuillez tourner la roue du Dharma. Main grand ou petit, conformément aux idées des variées mentalités de tout vivant.
Nous continuons avec la pratique. Je voudrais d'abord, d'une façon générale, revenir et insister sur un point qui est la flexibilité, la polysémie d'un sadhana, d'une pratique, qui peut être pratiquée de bien des façons, hein, suivant les personnes, suivant les circonstances. Dans la formule que l'on vient de réciter, l'on dit « veiller mettre en mouvement la roue du Dharma selon les mentalités et réceptivités, capacités de tous les vivants ». Il y a des capacités différentes, une mentalité différente, des réceptivités différentes. Donc, c'est le génie même d'un sadhana que de pouvoir être reçu et pratiqué par différentes personnes ayant réceptivité, capacité et mentalité différentes. Chacune dans son état d'esprit, dans son univers mental et selon ses possibilités. Donc, nous avons depuis le début de cette retraite déjà vu beaucoup d'aspects du sadhana. J'aimerais en rappeler les principaux. Au début, je vous avais mentionné Chenrezi comme vision, si vous vous souvenez. Comme une vision ouverte et compatissante. Une vision ouverte et dans un état de non-saisie, empathique, participative, compatissante. Et lorsque nous disons vision ici, ce n'est pas qu'une vision de l'esprit, c'est une vision du regard, c'est une vision oculaire dans associé à un regard large et panoramique. Nous avions aussi vu la présence de Chenrezig qui est la forme de la compassion et de l'amour de tous les Bouddhas, ou qui est l'amour, la compassion éveillée, exprimée en une forme symbolique, qui nous rend celle-ci sensible, on pourrait presque dire palpable, qui rend perceptible d'une façon qui fait sens dans nos sens habituels, qui rend perceptible l'amour non duel, la compassion éveillée. Donc, toute la description de Chenrezig, et demain, vous aurez un ensemble de détails sur celle-ci. Nous avons aussi vu dans, associé à la récitation du mantra, la respiration Vajra. Inspire, Om, expire, Om. Avec entre les deux, le calice du cœur, calice de lumière, habité de Ji, la syllabe germe de Chenrezig, et des six syllabes de son mantra. Cette respiration peut prendre différentes formes, ou il est plus exactement différentes pratiques associées à l'alternance du souffle. Nous avions mentionné aussi la pratique de Tonglen, qui est pratique centrale du Mahayana, le Bodhicitta. Mais de pratiquer Tonglen en étant Chenrezig, avec la réceptivité et la bonté qui est celle de Chenrezig, en accueillant les difficultés et les souffrances des autres jusqu'au fond de notre cœur, Omane Pemerong, et du fond de notre cœur, Omane Pemerong, d'offrir lumière, bonté et toutes les qualités et circonstances positives qui peuvent être offertes. Cette pratique de Chenrezig associée à Tonglen est une instruction spéciale qu'a développée Kalu Dorje Chan et que nous pratiquons aussi au sein des préliminaires Champa, préliminaires du Vajrayana, avec Bodhicitta, associé à la pratique de Bodhicitta. Nous avons aussi, la dernière fois, vu cette pratique que nous exposait Jamdön Trungpul, le Chodu, là aussi à partir du cœur calice habité de Mani Pemerong, avec l'émanation de lumière, de luminosité quinticolore qui purifie et éveille, active, révèle les qualités éveillées, puis l'intégration de celles-ci en son cœur, calice de lumière, Om Mani Padme Hum, intégrant ainsi toutes les qualités éveillées qui nous consacrent dans les deux dimensions du cœur-esprit éveillé, dans les deux dimensions de bodhicitta. Nous avions aussi, lors de notre dernière rencontre, abordé le samadhi omniprésent, ou la méditation omniprésente. Samadhi a le sens d'expérience profonde. Et ce samadhi omniprésent est la présence omniprésente de Chenrezig. La présence de Chenrezig dans toutes les formes, dans tous les sons, dans toutes les pensées. La présence de Chenrezig dans toute notre existence, corps, parole, esprit, corps, forme, parole, son, esprit, pensée. Après, dans le sadhana, avoir prié Chenrezig, c'est-à-dire cette abandonné, cette désaisie en sa présence, irradie une luminosité qui en quelque sorte émerge de son corps. Ce peut être son corps physique ou son corps omniprésent. Et en cette lumière, illusion karmique, impure, et en bref, toute illusion se dissolve. Cette lumière a la qualité d'un solvant qui dissout ainsi illusions, dualités et passions. Et au niveau formel, tous les vivants sont Chenrezig, l'environnement et le domaine pur de Chenrezig, l'habitat, Sukhavati, des Watchen, les habitants sont Chenrezig. Et au niveau profond, toute expérience, apparence, sonorité, intelligence et pensée sont indissociables de l'expérience du vide, vide de saisie, vide de dualité. Apparence vide, sonorité vide, intelligence vide. Et si vous vous souvenez, nous avions cité la prière d'autolibération de Guru Rinpoche que nous utilisons, que nous récitons régulièrement. Donc, tous ces différents aspects, comme nous le disions au début, sont susceptibles d'être pratiqués suivant les circonstances. C'est très important, cette notion. Et, en tibétain, on dit aussi « quand la candule », c'est-à-dire selon ce qui est chacun, conformément ou selon ce qui est utile pour chacun, en fonction de sa situation personnelle et des circonstances particulières. Donc, aujourd'hui, je souhaitais que nous voyions particulièrement la deuxième partie de la pratique principale, qui est la phase dite de perfection, Dzorim. Nous allons le faire à partir du deuxième adinda de Jamdren Rinpoche. Merci. Vous l'avez dans vos textes de pratique, il commence par en la non-méditation. Alors, d'abord, Dzorim, la phase de perfection, et la période d'expérience de la présence d'instantanéité, quel état du Mahamudra ou du Dzogchen, Et remarquez que le sadhana peut être une approche de cet état et ou, si celui-ci est reconnu, un moyen de son intégration. Suivant les capacités et circonstances. Cet état que Dorim Boche décrit dans l'état d'esprit de Rikton, la troisième stance de sa prière d'autolibération, celle que nous avons vue, et un état de non-fabrication, de non-artifice, de non-méditation et de non-distraction. Je pense que vous avez, la plupart d'entre vous, étudié le manuel La Voix du Bouddha de Kalu Dorje Chang. Dans la section sur Mahamudra, ils sont présentés les trois portes de la libération qui sont Matche, Migom, Mayen. Non-artifice, non-méditation et absence de distraction. C'est-à-dire ne pas se distraire de l'état en lequel il n'est pas d'artifice, rien n'est délibérément artificiellement pratiqué, induit, rien n'est même en ce sens médité, c'est ainsi que l'on parle de non-méditation, un état de repos de l'esprit ou de non-agir de l'esprit qui simplement repose tel quel en son état naturel, Rambap, tel quel en son état naturel. Et ainsi, le texte de l'adinda dit en la non-méditation, en l'état de non-méditation, il n'est aucun méditant, et on aurait pu rajouter, et aucun médité. c'est quelque chose de trivial. En l'absence d'action, il n'est pas d'acteur ni d'agi. Acteur, action et agi, sujet, objet et action, relation, sont non seulement interdépendants, mais aussi concomitants. Donc, en l'état de non-méditation, il n'y a plus de méditant, ni rien qui soit médité. Et en cet état, il n'est ni déité ni mantra. C'est-à-dire que tout ce que nous avons vu durant la phase de génération, la présence symbolique de la déité avec forme et son, représentation et mantra, tous ces aspects, somme toute, conceptuels, se sont dissous. Dans le sadhana, la première phase consiste à rendre tangible l'intangible. Il y a une sorte de coagulation. La deuxième phase consiste à dissoudre ce qui avait été ainsi rendu tangible ou coagulé. Il y a toute une dynamique alchimique dans ce processus. Et en cet état de non-méditation, il n'est rien à enlever ou rien à rajouter. Rien n'est fait ni défait. Rien n'est posé ni enlevé. Simplement laissant tel quel en le non-agir du mental. Et souvenez-vous, Rinpoche nous dit dans sa prière toujours, le mouvement laissé en lui-même est libéré en dharmakaya. Si le mouvement de l'esprit est laissé en lui-même, c'est-à-dire sans interférence, sans fabrication, sans moi qui dise oui ou non, qui en rajoute ou en supprime, sans fabrication, sans moi, le mouvement est alors auto-libéré en ouverture du dharmakaya, du corps absolu. La perfection, s'y contemplant parfaitement, sa vision parfaite et complète libération. Donc, dans cet état de non-fabrication, non-méditation, la perfection non-dualiste de l'état naturel est une clarté, une luminosité, une lucidité qui se comprend en elle-même. Ranri de Rancel, dit-on en tibétain, une intelligence réflexive et qui se comprend en elle-même. La perfection se contemple en soi, s'y contemplant parfaitement, sa parfaite vision et complète libération de la dualité de ses illusions et passions. Toute expérience en cet état, toute expérience sont l'état naturel. Tant que rien ne soit fait, tel quel, et laisser tel quel toutes ces expériences en la présence ouverte, en une ouverture complète, en la présence d'une parfaite ouverture, toutes sont l'état, toutes ces expériences sont l'état de pure vacuité. Toutes ces expériences se vivent en l'état de vacuité, toutes ces expériences se vivent en l'état libre de saisie, en l'état vide de saisie. Cette vacuité. Et cette vacuité de la présence ouverte en l'état naturel est le roi des yogas, de tous les yogas. C'est le plus haut, le plus grand, c'est ainsi le roi, et soit sans doute. Le doute étant effectivement ce qui nous empêche de nous y abandonner vraiment, de le vivre vraiment et d'en laisser l'expérience perdurer sans intervenir. Et la fin de l'ananda dit, récitant ces mots ou considérant leur sens, contemple en l'état naturel du mode fondamental, en l'état naturel fondamental. Donc, le point est de découvrir cet état, de le découvrir dans son expérience. Et c'est un état, somme toute, très simple. C'est l'état même de simplicité. Que l'on vit lorsque l'on se suspend, lorsque l'on est suspendu. Ah ! Ah ! Ah ! Et dans cette suspension, on est quelqu'un ébahi. En tibétain, on dit édewa. Mais ébahi, pas dans une stupeur inerte, mais dans un état de suspension vide de saisie. Donc, ceci constitue la phase de perfection. Et le roi des yogas ayant découvert cet état, de le cultiver sans distraction, sans s'en distraire, en y revenant chaque fois que l'on l'a quitté. Et c'est ce que permet le sadhana. Si l'on quitte cet état de suspension, l'on revient, on apprend à revenir au samadhi omniprésent et à la présence de Chenrezig, qui en quelque sorte nous renvoie à la phase de perfection, ou nous rappelle la phase de perfection. Et il peut y avoir ainsi un va-et-vient entre un moment de pratique conceptuelle et moment de pratique non conceptuelle. Et la pratique conceptuelle nous renvoyant à l'état non conceptuel. Ceci est... est une expérience yogique, une expérience vécue. En termes philosophiques, c'est une perspective de la voie du milieu, Madhyamaka, et même ce que l'on nomme le grand Madhyamaka, dans lequel l'on dit que tout vivant a la nature de Bouddha, mais que celle-ci est voilée par des souillures adventices. L'opurgijima, les souillures adventices, les voiles qui masquent, occultent ou obscurcissent la présence de la nature de Bouddha qui est inhérente, omniprésente. Ces voiles, ces souillures adventices, sont ceux de la saisie duelle, la saisie de la conscience duelle, saisisseur saisi, sujet objet. Et la pratique fondamentale du Dharma dans tous ses aspects est un processus de libération de la saisie, un processus de désaisie, de lâcher prise de la saisie. D'évacuation de la saisie ou d'absence de saisie, de vide de saisie. Le sadhana étant le moyen par excellence pour intégrer, développer cette pratique. Pour terminer, une remarque sur la convergence de la compassion et de la vacuité. La convergence de la compassion et de la vacuité dans l'état de non-saisie, dans l'état d'absence de saisie duelle ou dualiste. C'est dire que la perfection de la vacuité parfaite, Et la perfection de la compassion parfaite, les deux sont à un même état de non-dualité. Le vide de dualité et la vacuité parfaite. Et lorsque moi et autres ne sont plus deux, se trouve réalisée l'empathie parfaite, la compassion parfaite et aussi l'amour parfait dans lequel soi et l'autre sont égaux, non deux, inséparables. Ceci est important car souvent l'on ne perçoit pas la convergence de la compassion et de la vacuité. Les deux se développent parallèlement dans la réduction de la dualité, c'est-à-dire dans la réduction de l'ego, du moi et de l'autre, et finalement se rencontrent dans un unique et même état d'éveil, qui est l'ultime chenrezi, l'ultime immense bonté. Est-ce qu'il y a sur ceci des remarques ou des questions? S'il vous plaît, oui.
Bonsoir, Rinpoche. J'aurais aimé avoir des précisions concernant Trodu, émission, résorption. Elles sont associées à la récitation du mantra. Est-ce qu'elles sont associées à l'expiration et l'inspiration? Est-ce que vous pourriez préciser, s'il vous plaît?
Le Chodu, émanation, résorption, pendant la phase de récitation, n'est généralement pas associé à la respiration, n'est pas synchronisé avec la respiration. Du moins, au début, il est possible, lorsque l'on en a développé une habitude profonde et stable, de le synchroniser avec la respiration. Mais ça n'est pas. Il est bien de prendre le temps d'une émanation longue, plusieurs respirations, puis ensuite le temps d'une résorption, intégration longue, qui dure aussi le temps de plusieurs respirations.
D'accord. Et du coup, combien d'émanations et de résorptions?
La ad libitum, autant que vous voulez. Et suivant les circonstances, d'une façon générale, avec la situation présente, et où en s'entraînant avec les différentes passions qui sont caractéristiques des silokas.
D'accord.
Et aussi avec éventuellement les circonstances associées à ces différentes passions telles qu'elles peuvent émerger dans notre vie quotidienne.
Merci.
Oui, j'aurais juste une question. J'ai du mal à dissocier compassion, vacuité et la question de l'action, puisque la compassion implique une participation au moins à ce qui se passe à l'endroit où on est ou autour de nous. et le lien entre compassion, vacuité et action.
Nous avons dit qu'ultimement, compassion et vacuité sont en même état. Un même état de présence absolue, qui est le lieu et la situation de l'action parfaite, de l'action éveillée. Une action qui n'est pas une action délibérée au sens de procédant d'un raisonnement conceptuel, mais qui est une forme d'adaptation immédiate et spontanée à l'énergie ou de la situation de l'instant. Donc, demain.
Alors, il y a deux questions online. Une de Franck.
Franck.
Donc, dans cette pratique, que deviennent notre sensation au souffle de nos poumons et celle du battement de notre cœur, si toutefois il y a dans cet état des sensations ?
Ces sensations se vivent pleinement, simplement, telles qu'elles sont.
Merci.
On les laisse être telles qu'elles sont, sans modification, sans artifice. Et elles se vivent d'une façon beaucoup plus intense ou vive même qu'autrement.
Et une deuxième question de Maud de Marseille. Pendant la phase de perfection, peut-on dire que nous sommes sans pensée ?
Pendant la phase de perfection, nous sommes sans pensée discursive. Attention, et là le discursif est important. Nous sommes sans les pensées de la saisie duelle, sujet-objet, qui font les questions et les réponses, qui est le discours intérieur de la pensée habituelle. Ces pensées n'ont pas cours, mais... Et il y a là une difficulté, cela ne signifie pas que l'on soit incapable de penser. Il y a une forme de pensée vide ou d'intelligence vide qui n'a pas besoin de se dire à soi-même ce qu'elle sait déjà. Là, c'est une façon humoristique de le dire, mais... Il est sûr que dans la pensée discursive, ce que l'on se dit à soi-même, c'est nécessairement quelque chose que l'on sait déjà, puisqu'on se le dit. Hein, la source, on est à la fois la source et le réceptacle. Donc, il y a une forme de pensée immédiate, qui est une sorte, si on prenait une image contemporaine, une sorte d'accès direct à la mémoire vive, sans affichage écran, qui est une forme d'intelligence extrêmement vive, directe et rapide. Voilà. Mais d'une façon simple, effectivement, dans l'état inconceptuel, il n'y a pas de pensée distorsive.
Bonsoir Rinpoche. Vous nous avez à plusieurs reprises parlé de la possibilité de pratiquer le sadhana avec les émotions. J'ai un peu du mal à voir comment. Je me demandais si on pouvait prendre par exemple l'exemple du désir-attachement et qu'est-ce que ça pourrait, comment ça pourrait se dérouler.
Le principe et la pratique avec les émotions est... dis-on. J'emploie le terme anglais parce que je sais que vous parlez anglais, et parce qu'il est pratique, to disown, déposséder en français. Disown. Et, mais en français, la dépossession, ça devient un petit peu lourd. Mais c'est de lâcher le possesseur, lâcher le sujet qui s'accroche à l'émotion. Donc, c'est une façon aussi de dire de lâcher prise. Il peut y avoir dans le contexte du sadhana différentes façons de pratiquer avec les émotions et d'intégrer les émotions. Celle-ci est essentielle. C'est l'expérience de l'émotion vide, de même que nous avons tout à l'heure discuté apparence vide, sonorité vide, intelligence vide. Intelligence vide, c'est tout ce qui est susceptible d'émerger en nous, dans notre mental, dans notre... Parmi ces émergences, les émotions. Et une émotion vide, est une émotion dans laquelle, ou par rapport à laquelle, l'on s'est suspendu. Remarquons comment habituellement nous nous comportons eu égard à une émotion. C'est une émotion qui arrive, ou bien on va abonder dans celle-ci. Si c'est des désirs attachement avec enthousiasme, ou on va la refuser, vouloir la chasser ou la fuir. Chasser ou fuir, ça revient au même, c'est mettre de la distance. Et notre stratégie, largement inconsciente, mais pas partiellement consciente, est de rester nous, moi, tranquille, sans être perturbé par l'émotion. On pense que c'est ce qu'il faudrait faire, pouvoir rester sans être contaminé par l'émotion. Donc, je reste et l'émotion s'en va. Et on peut essayer d'avoir des stratégies d'évacuation des émotions, avoir des formules, des coups de goupillon, ou fly touch, ou va des rétro-émotionnels, ou toutes sortes de... C'est cette stratégie d'évacuation et de rejet, finalement, des émotions, ne fonctionne pas. Non seulement ne fonctionne-t-elle pas, mais elles sont contre-productives dans la mesure où l'énergie que l'on investit pour chasser l'émotion nourrit celle-ci. L'énergie investie dans une tentative de refoulement nous revient comme le retour du refoulé avec une puissance accrue. Donc, la stratégie est de faire exactement le contraire. Plutôt que de rester non contaminée de chasser l'émotion, on laisse l'émotion et soit on s'en va. On laisse l'émotion et soit on décroche. On se suspend. On pourrait dire que c'est tout. Ça suffit. Après, ça peut être plus élaboré. Vous avez peut-être appris dans la Open Mindfulness les quatre étapes de la pratique avec les émotions. Elles vont dans la même direction. Mais il s'agit de rester eu égard à l'émotion dans cette position d'observateur abstrait, d'observateur suspendu, qui ne s'implique pas dans l'émotion, ni pour aller avec elle et partir avec elle, ni pour la chasser ou la fuir. Simple reconnaissance. Sans suite. Et c'est une pratique de Dzogchen, c'est une pratique du samadhi omniprésent. Vous pouvez aussi, et c'est une autre façon, transformer l'énergie de l'émotion en chenrezig. Vous avez une énergie et hop, chouette, vous lui donnez la forme de chenrezig. Ou encore, avec l'émotion, de pratiquer ton laine. Ou d'une façon simple, en l'accueillant et s'y abandonnant. Ce qui, lorsqu'on le pratique profondément, nous ramène à la première pratique évoqué tout à l'heure. Bien.
Merci.
Sans mots. Tournez-la. S'il vous plaît.
Bonsoir, Rinpoche. Mais avec une émotion qui fait que notre vie serait en jeu, on est obligé de réagir.
On est obligé de réagir, ou plus exactement, il est nécessaire d'agir. Paradoxalement, l'on agit d'autant mieux que l'on ne réagit pas. Je voudrais dire par là que si on réagit, on est dans une forme de réactivité plus ou moins conditionnée par une émotion ou par la peur. Donc, la réaction et la réactivité conditionnée n'est pas une stratégie optimale et souvent même un comportement maladroit. Par contre, l'action, tout à l'heure nous parlions de l'action parfaite qui est dans l'état de vacuité et de compassion, qui est dans l'état de non-dualité et de participation parfaite. Dans cet état de participation parfaite, c'est-à-dire de présence parfaite à l'instant, sans saisie, quelle que soit la situation, vous êtes spontanément en mesure d'y répondre de la façon la plus adaptée qui soit. C'est un principe fondamental des arts martiaux. Donc, si vous êtes en situation de danger vital, c'est ce qui peut se faire de mieux.
Merci.
Madame.
Oui, bonsoir Rinpoche. Je voudrais revenir sur la question de l'énergie de l'émotion. Est-ce que on peut l'utiliser pour la transmutation de d'une passion, par exemple? Est-ce que cette énergie-là peut devenir utile?
Cette énergie peut être utile si elle est transmutée, mais la transmutation se fait justement dans et par la désaisie. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez l'utiliser ou la manipuler, mais c'est qu'une fois que vous ne serez plus là, elle a son intelligence qui va continuer et s'exprimer spontanément.
Donc il ne faut pas avoir d'action volontaire, c'est ça que vous voulez dire?
Il y a pas de...
Juste respirer dedans.
Vous pouvez, à ce sujet, d'une façon un peu plus détaillée, relire les souhaits de Samantha Badra, les souhaits du Dzogchen, où il est une stance dédiée à chacune des cinq passions. Et en substance, Samantha Badra dit de se relâcher en l'émotion, de se relâcher en la passion. Mais de s'y relâcher, abandonner complètement, ce qui est une autre façon de dire ce que j'exprimais tout à l'heure, de se suspendre, de passer en absence.
J'avais une autre question. Vous avez parlé la dernière fois du fait que chaque syllabe du mantra était associée à une passion. Et est-ce que pendant la récitation du mantra, si on a une passion particulière, selon les circonstances, à travailler, est-ce qu'il y a une pratique particulière?
On peut effectivement pratiquer émission-résorption, chodu, associé à cette passion. Si c'est par exemple, disons, le désir, qui alors peut-être le désir humain ou l'avidité d'esprit avide, qui correspond dans le mantra à ni jaune ou mai rouge, il est possible de méditer avec, en le calice du cœur, le tiglé jaune ou le tiglé rouge et son irradiation particulière sous forme d'une lumière, qu'elle soit jaune ou rouge, qui purifie particulièrement à ce moment-là le désir ou l'avidité dans tous les vivants et aussi dans les situations qui sont celles que l'on connaît. et qui en libère tous les vivants, qui révèle les qualités transmutées qui correspondent et qui reviennent en nous aussi, nous consacrant avec ces qualités transmutées.
Bonsoir Rinpoche. Par rapport aux émotions, est-ce que la récitation du mantra en situation, quand une grosse émotion arrive, est-ce que le fait de réciter le mantra est quelque chose d'approprié?
Oui, et c'est très bien parce que la récitation du mantra va naturellement opérer la transmutation, si on la fait vraiment. La récitation du mantra va naturellement nous protéger et transmuter. Si vous êtes dans la récitation du mantra pleinement, ça coupe court à l'investissement dans l'émotion et cette suspension a un effet libérateur et aussi profondément transmutateur. Et ça, c'est très facile et c'est très simple. Bien. Je vous propose un petit moment de contemplation.
sens ou d'une amoureuse, déniés ou bien de nous les vivres, dans la réalité, dans